Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Les 5 et 19 mai 1974, les Français sont appelés à élire le quatrième président de la 5e République française. Georges Pompidou vient de mourir, des élections ont été organisées en hâte. Les deux principaux candidats sont François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing. Jean-Marie Le Pen s'est présenté pour la première fois avec son parti, le Front National. Cette élection est connue dans l'histoire pour avoir enregistré le plus fort taux de participation de la 5e République. 87,33% au second tour, un chiffre qui fait rêver. Le scrutin intéresse les Français, les camps s'opposent, l'opinion est fortement clivée, dirait-on aujourd'hui. À la fin, Giscard l'emporte avec seulement 424 000 voix d'avance, le score le plus serré de cette 5e République. Dans les médias, qu'on appelle encore les journaux et l'ORTF, le débat est abondamment relayé, à la radio comme ailleurs. Mais on entend surtout des politiques ou des commentateurs. Quelques rares voix à l'époque donnent pourtant la parole aux catégories populaires. Clara Candiani, depuis les années 50, se penche sur les taudis et leurs habitants, sur les ouvriers et les pauvres en général, dans son émission qui s'appelle « Les Français donnent aux Français ». Depuis 1967, la reine des cœurs, Ménie Grégoire, donne la parole aux femmes. Et dans le point du 7e jour, Jean Rabaut, tous les dimanches, s'efforce aussi, dans cette émission d'actualité, de tendre son micro à ceux qu'il appelle les gens sans importance, cette France d'en bas, qui n'a pas encore d'autre nom que le peuple ou les petites gens. À la veille de cette élection, il redouble de zèle. Journaliste, historien, il est membre du cercle communiste démocratique et spécialisé dans l'histoire du socialisme et du féminisme. Tout de suite dans les pieds sur terre, quelques échos de cette France d'en bas d'avant. Nous sommes dans les années 70. C'était comment la France d'en bas? C'est parti.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Dans 15 jours exactement, dans un bureau de vote, les gens du quartier oublieront que la vieille dame de 75 ans n'est qu'une simple concierge qui fait encore des ménages. Et ce jour-là, sa voix aura la même valeur que celle d'un ministre, d'un député ou d'un PDG, c'est la démocratie. Et par cette voix, elle pourra librement exprimer ce qu'elle pense et de notre époque et de notre société. Alors, puisqu'elle représente des millions de Français qui juge la vie avec sagesse et bon sens populaire, pourquoi la vieille dame sans importance ne le ferait-elle pas dès aujourd'hui pour le point du 7e jour?
Le concierge est un personnage qui devient de plus en plus rare. Comment vous considérez les gens et comment considérez-vous vous-même votre métier?
C'est-à-dire que j'aime ce métier-là, j'aime mes locataires, sinon c'est un métier très ingrat. Et on n'est pas payé. J'ai 18 000 francs par trimestre, ancien. Alors, vous voyez que je suis obligé de travailler, forcément. Alors, j'ai des locataires qui sont très gentils, j'en ai qu'une qui est acariate, c'est tout. Mais j'y fais pas attention.
Vous avez d'autres occupations à côté?
Ah oui, je ne peux pas vivre avec ma vie de concierge, c'est pas possible. Je fais la plonge, je fais des ménages chez une dame depuis 6 ans. Et puis, chez une dame, un vieux monsieur qui a 86 ans, qui a une jambe de moins de la guerre 14. Je lui aide comme je peux.
Et vous avez 75 ans.
75 ans, oui.
Trouvez-vous normal de travailler à cet âge?
Je m'ennuierais si je ne travaillais pas. Je ne pourrais pas rester à rien faire, si c'est pas possible.
À propos des prochaines élections, pensez-vous que quelque chose aura changé en France?
J'ai bien peur des événements quand même comme 68. Il y a des trucs qui se montent en ce moment, vous savez, j'en ai entendu parler pas mal, et malheureusement, tout le petit à craindre, hein. Parce que vraiment, la vie augmente sans cesse, comment voulez-vous? D'ailleurs, il y a trop d'impôts. Il y a trop d'impôts, on ne peut plus arriver à vivre avec la vie comme on fait, c'est plus possible. C'est une vie infernale. On a diminué la TVA, c'est aussi cher. Un camembert, il faut mettre 400 francs dans un camembert sans avoir un bon camembert. Mais vous appelez ça que la vie baisse? Le porte-monnaie, il baisse, oui. Je ne sais pas si vous faites des courses, monsieur, mais... Le monde est égoïste, non? Chacun vit pour soi à l'heure actuelle. C'est des choses qui n'étaient pas dans le temps. Dans le temps, on n'avait plus de, je sais pas, plus d'entretien entre ensemble. Maintenant, tout le monde est chacun chez soi. La vie est trop dure, d'ailleurs. On ne peut plus se voir comme on faisait dans le temps. Forcément, c'est plus possible.
Et c'est ce manque d'amitié et de fraternité qui vous fait mal au cœur.
Oui, c'est ce manque de fraternité qu'il y avait dans le temps, qu'il n'existe plus maintenant. Moi, je suis toute seule là. Je ne vois personne. Je ne veux pas fréquenter personne. Parce que j'aime pas les cancans. Si les concierges ont dit « Ah, tiens, c'est la concierge un tel qui a dit ça », comme ça, en ne voyant personne, on ne dit pas « C'est la concierge un tel qui l'a dit ». Moi, j'ai mis tout le monde dehors. Aussi bien les locataires comme les visiteurs. On m'a dit « J'étais sauvage, mais ça fait rien, c'est pas gênant ». Je me dis « Qu'en dira-t-on ?» J'ai ma conscience pour moi tranquille, et c'est le principal.
Lorsqu'au lendemain de la dernière guerre mondiale, on a accordé le droit de vote aux femmes, pensiez-vous que votre vie allait devenir tout autre, enfin, qu'elle portait beaucoup plus d'espoir?
Bon, vous savez, ça m'a pas intéressé beaucoup parce que la politique, je vous dis, je m'en occupe pas. Alors. Enfin, j'ai toujours voté quand même. Même que je voterai blanc, mais je vote quand même. Il faut d'ailleurs. Si on ne vote pas, ça donne des voix quand même à les gens, forcément, ça. Mais malgré tout, je trouve que les femmes sont mieux à leur foyer que de s'occuper de politique. Je trouve une chose que la femme qui est mariée devrait rester plutôt à son foyer à élever ses gosses que d'aller travailler au dehors, au fond. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent au dehors, une secrétaire et tout, et ils prennent des bonnes et des femmes de ménage pour élever leurs gosses. Je trouve que la femme est plutôt à son foyer que de donner les gosses à des étrangers, quand même.
Aujourd'hui, en France comme ailleurs, on voit des mouvements féminins réclamer davantage de liberté pour la femme. Vous voyez, par exemple, cette affaire d'avortement. Qu'en pensez-vous?
Bien, moi, je pense que pour une fille mère, je trouve que c'est bien parce que les hommes laissent toujours les filles tomber. Chose le cas qui a été ma fille pendant sa grossesse. Alors, je trouve que les hommes devraient être aussi punis comme les femmes. Et je trouve qu'un docteur qui fait avorter une fille, eh bien, qu'il a raison, moi, je lui donne raison, je lui donne pas tort.
Et autrefois, comment les avortements se passaient-ils?
Ah, ben ça, j'en sais rien, je me suis jamais fait. J'ai eu 5 enfants, je me suis jamais fait avorter. Et si j'avais eu le moyen, je l'aurais fait. Ça, je vous certifie, parce que j'en ai pas eu 5. Hein. Et s'il y avait eu la pilule, je dis toujours à mes filles maintenant, s'il y avait la pilule, tu serais pas au monde. Mais la pilule, moi, j'en suis pas. Non. Non, ça rend ça, vous savez.
Pour ce qui est de la jeunesse, seriez-vous tenté de la condamner ou bien la comprenez-vous?
Je pense que les parents ont beaucoup de responsabilités. Parce que dans le temps, les parents, vous savez, moi, j'ai élevé mes 5 gosses, mais s'il fallait qu'on les élève à l'heure actuelle, comme ils sont à l'heure actuelle, eh bien, ils auraient pas été à noces avec le père, hein, je vous certifie. Parce que l'école, c'était l'école, et puis c'était l'heure et l'heure. Hein. Parce que maintenant, les parents, ils se moquent un peu de tout, vous savez. Ils devraient au moins tenir leurs enfants qui ne sortent pas, surtout les filles qui ne sortent pas à une heure indue de la nuit, quand même. Ils doivent savoir à l'heure qu'ils entrent ou à l'heure qu'ils sortent, à mon avis, moi. De voir des gosses qui fument à l'âge de 14 ans, ben écoutez, quand même, on n'a jamais vu ça, hein, entre nous. C'est vrai, fumer, comme ils se mettent à la drogue comme ils se mettent, ben. Et je trouve que dans les machins sexuels comme on met à l'école maintenant, ça ne devrait pas être. Parce que vraiment, c'est incité à la débauche. Ils en savent déjà assez comme ça, avec la télévision et tout. Voir des crimes à la télévision comme on voit, ben c'est ça qui est du coup de revolver et tout, ben je trouve que c'est. On ne voyait pas ça dans le temps quand même. On ne vit pas normalement comme dans le temps. Ils n'ont pas une vie maintenant, les jeunes. Ils ne sont énervés par la musique, par l'ambiance des machines, je sais pas. Des voyous comme il y en a qui sont dans les banlieues surtout. Parce que dans les banlieues, c'est à tous, vous savez. Ils ont des motos qui sont sur les fenêtres, que des pauvres vieux qui sont là toute la nuit à entendre ça, ben c'est pas marrant, vous savez. C'est pas le même genre que nous autres.
Si vous aviez quelque autorité en la matière, que feriez-vous?
Eh bien, je les tiendrais un peu plus serrés. Je leur dirais l'heure et l'heure. Tu vas rentrer à telle heure, mais tu vas sortir à telle heure et telle heure. Et ce serait peut-être pas un mal.
Le sexe encore, le sexe toujours. On ne parle plus que du sexe, on ne voit plus aventure que des revues érotiques ou pornographiques. La pornographie, c'est l'érotisme des autres. En tout cas, ces revues, donc, pullulent. Pullulent aussi celles qui donnent des conseils pratiques et même techniques aux jeunes gens et aux gens moins jeunes. La profession de sexologue, récemment créée, paraît devoir mener à la fortune. L'amour physique, donc, est à l'honneur. Qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il d'une libération des préjugés ou au contraire d'une obsession maladive? Toujours est-il que le sexe a ses réprouvés sur le cas desquels nous allons tenter de voir clair.
Les parias du sexe.
Elle est un homme, mais on l'appelle Josiane. Elle est vêtue en femme, plaisante, élégante, maquillage soigné, tailleur rose. On s'y tromperait à coup sûr si quelque chose en elle, la voix, n'hésitait pas entre la masculinité et la féminité. Je dis la voix, mais est-ce que ce n'est pas toute la personne qui hésite entre les deux pôles?
Non, aucune partie de ma personne, si ce n'est la voix, parce que la voix est la chose la plus difficile à rendre féminine. Il faut des années de patience et de persévérance, dirons-nous.
De quel milieu êtes-vous issu?
Je suis issu d'un milieu provincial, petit bourgeois au possible. Je suis né à l'après-guerre, en 1945, après la libération, de parents fonctionnaires assez aisés. Mon père était professeur, ma mère vivait et a vécu dans les banques. J'ai des oncles et tantes et cousins encore plus bourgeois, ou notaire, ou profession libérale, ou même officier dans l'armée.
Et comment expliquez-vous cette orientation, cette espèce de nécessité qui pèse sur vous, étant physiologiquement un homme, de devenir femme? D'abord, jusqu'à quel point êtes-vous physiologiquement un homme?
Physiologiquement, homme, je ne le suis, ou plutôt je ne l'étais qu'en apparence. Mon problème, qui en fait est le problème d'une très petite minorité de gens, est un problème psychique, un problème qui remonte à la toute petite enfance. Mes problèmes psychiques, un problème aussi certainement endocrinologique, biologique, parce que mon corps est très très féminin. J'ai toujours cru dans l'enfance que j'étais un peu une petite fille. J'ai toujours eu, malgré une éducation de garçon, j'ai toujours eu des troubles diffus, des troubles confus, mais des troubles réels qui d'ailleurs ont éclaté après mon adolescence. Et finalement, à l'âge adulte, à l'âge où on doit prendre ses responsabilités, derrière vous, mon problème a éclaté et le choix a été fait. Je n'étais qu'une fille, pas autre chose.
Et alors, en somme, vous avez accompli le vœu qui était en vous d'être femme le plus tôt possible. Mais vous n'avez pu assouvir ce vœu que dans la prostitution.
J'ai fait l'épreuve de la recherche d'un travail parce que cette vie marginale m'a amené évidemment à la prostitution. Et c'est pas de gaieté de cœur que j'ai été amené à me prostituer. Ça a été malgré moi. Puis on s'habitue, vous savez. On s'habitue à tous les rôles et tous les comportements dans la société. Et j'en suis d'ailleurs devenu très révolté. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, ma révolte est totale contre la société. À partir du moment où vous plongez dans ce monde, vous êtes en marge. Vous êtes rejeté, vous êtes un paria. Vous savez, j'ai rencontré dans ma brève carrière bien des gens qui ont voulu m'aider. Ils se sont heurtés à des murs bureaucratiques, des murs administratifs. Comment trouver un emploi de secrétaire ou même de cadre, puisque je pourrais aspirer à un emploi de cadre, dans la mesure où votre matricule de sécurité sociale ne correspondrait pas avec l'apparence. Quand on entre dans la prostitution, c'est un peu comme quand on entre en religion, c'est pour la vie, je crois. On ne s'en sort pas facilement.
Oui. Vous pensez par conséquent que c'est une profession sans issue?
Je ne pense pas que ce soit une profession, c'est un état. Je considère même que c'est un esclavage. Enfin, c'est...
Vous buvez?
Ah oui, comme toute fille. C'est un autre mode de vie. Une vie nocturne nécessite une vie un peu alcoolique. Et remarquez, il est aussi difficile de vivre la nuit, de vivre nuitamment et de boire des jus de fruits. Ce serait impossible. On boit du whisky ou du champagne énormément. Mais c'est une question de style de vie, une question de vie noctambule. J'aime l'aventure avant tout. C'est plus enrichissant qu'une vie de fonctionnaire. Enfin, moi, je me grise d'une vie quotidienne, d'une vie au jour le jour, où j'aime les risques. J'aimerais mourir tragiquement.
Vous croyez vraiment qu'il n'y a pas d'autre moyen que de prendre des responsabilités et de couvrir des risques que celui qui consiste à vendre ses charmes?
Dans le fond, je n'ai pas connu d'autre, alors.
Et vous arrivez de passer en justice?
Il m'arrive de passer en justice. La dernière fois que je suis passé au tribunal pour racolage, le substitut a eu ce mot charmant, la société n'a pas besoin de déguiser. Moi, j'étais féminine, belle, et comme pas deux. Et lui, je nous imaginais tous les deux dans le métro à 6h du soir, lui avec sa toge et moi. Qui aurait été déguisé?
Je voulais vous demander, vous devez rencontrer dans l'exercice de votre profession des homosexuels hommes?
Non, ne croyez pas, le monde homosexuel est un monde qui est branché sur l'homme. C'est un monde clos qui vit dans un univers masculin, même si ces hommes ne sont pas très virils, très mâles. L'homosexuel refusera par définition la femme. Et il refusera encore plus ces mutants, ces petites mutations sexuelles.
Vous ne les aimez pas, les homosexuels hommes?
Je les déteste. Ce sont des gens qui nous envient, qui nous en veulent, et qui sont plus prêts à nous faire des petites méchancetés qu'à nous rendre des services. Les hommes que moi j'aime sont les hommes tout ce qui est plus viril, tout ce qui est plus normaux, tout ce qui est plus masculin, tout ce qui est plus mal. Pour moi, la vertu de l'homme est une vertu guerrière. J'ai une admiration énorme pour les mercenaires,
votre rêve serait d'une femme de tradition, d'être une femme de tradition.
Extrêmement, je suis extrêmement traditionnaliste.
Filant la quenouille. Mouchant les gosses.
Peut-être pas, quand même.
Non.
Parce que je suis quand même beaucoup plus sensuel, enfin, sur ce plan, mais enfin, je suis extrêmement traditionnaliste en matière de mœurs. J'estime que les hommes ont une certaine place à tenir dans la société, et les femmes une certaine autre, et d'ailleurs, à l'heure actuelle.
Autrement dit, le MLF ne vous intéresse pas?
Ah non, le MLF ne m'intéresse pas. J'estime qu'une femme doit être féminine, elle doit avoir une manière de s'habiller, elle doit avoir une manière de vivre vis-à-vis des hommes. Enfin, je pense que les hommes attendent un certain comportement d'une femme.
Un
et
objet,
que vice-versa...
D'être un objet?
Peut-être.
Oui.
C'est excellent d'être un objet.
À votre avis, il ne vous serait pas possible, les choses étant ce qu'elles sont, en ce qui vous concerne, de vivre sans vivre en travesti?
Absolument pas. Je ne conçois pas ma vie autrement que celle d'une femme, d'une vraie femme, et avec un état civil de femme, ce qui m'arrivera.
Mais quelle est en général l'attitude des médecins intéressés à la chose?
Les médecins sont de plus en plus ouverts à ces questions, quand même, heureusement. Parce qu'ils savent qu'il y a quand même un problème humain grave. On ne peut pas laisser une femme vivre dans un contexte d'homme. C'est trop grave.
France Culture, les pieds sur terre.
Dites-moi, connaissez-vous des gens heureux qui ignorent le sens des slogans à la mode tels que métro, boulot, dodo, ras-le-bol du béton, des villes, de la société industrielle, de la pollution? Non, vous ne connaissez pas. Et pourtant, ils existent. J'en ai vu. À Bambois, par exemple. Dans une vieille ferme des Vosges, de jeunes diplômés reconvertis en bergers tisserands.
On avait, en 1964, Francis et moi, 24 ans et 25 ans. On venait de terminer nos études, moi mes études de professeur de dessin, et Francis sortait de l'école de berger de Rambouillet. Ça n'a pas été vraiment un départ, et ça n'a pas non plus été une fuite, parce que c'était juste au seuil de notre vie d'adulte, et il fallait que nous choisissions une vie et un métier. On était vraiment, enfin, vraiment très innocents. On ne se rendait absolument pas compte dans quelle vie on se lançait, là, quand Francis décidait de trouver une ferme et d'avoir un troupeau. Alors, on n'avait pas du tout de maison à nous, et on a découvert, une toute petite maison qui n'avait pas de terrain. Mais enfin, on l'a prise parce que ça nous permettait à Francis et à moi de vivre ensemble. Et on savait que d'ici 4 ou 5 mois, on aurait un troupeau. Et puis, on a eu 1 ou 2 hectares par la suite, puis encore 1 ou 2 autres. Et c'est à partir de ce moment-là que, si vous voulez, on a pris conscience de ce qui nous attendait et qu'on a cherché, alors vraiment de toutes nos forces, à trouver du terrain, à trouver une ferme, une vraie ferme de paysans à acheter. La ville, de toute façon, Francis et moi, on était colmariens tous les deux. On connaissait donc ce qu'est une ville, une petite ville. Moi d'ailleurs, j'ai été professeure pendant au moins 5 ans dans cette ville. Seulement à la fin, j'étais vraiment tiraillée entre deux genres de vie différentes, entre mon métier de professeure en ville où il fallait que je descende, et puis cette nouvelle vie là-haut, qui était le troupeau et le tissage. Et alors finalement, j'ai sauté le pas et puis j'ai laissé de côté le métier de professeure et je suis restée tout à fait là-haut, sans avoir à redescendre.
Je sais pas, c'est l'envie de vivre en montagne, je crois, avant tout. J'ai vécu toute l'enfance en montagne, donc c'est peut-être ça, quoi. Je sais pas, c'est un cadre où je me sens bien, où je me sens mieux qu'en ville. J'aurais certainement fait un très mauvais citadin, tandis que là-haut, je me sens bien. Je m'épanouis plus.
L'accueil a-t-il été sympathique? Les gens ne vous ont-ils pas regardé avec une certaine méfiance? Ne pensaient-ils pas que vous aviez quelques grains de folie en tête pour reprendre des terrains qui n'étaient pas cultivés depuis une décennie, voire davantage?
On n'a pas eu d'hostilité de la part des paysans, de la curiosité, amusée. Ils se demandaient certainement si on allait se casser la figure ou pas. Enfin, ils disaient parfois à Francis, oh, tu n'es pas du métier, ça se voit bien, ou bien des choses comme ça. Et petit à petit, enfin, on leur a montré qu'on n'avait pas peur du travail. Et je crois que c'est ça l'essentiel, que l'estime des paysans vous est tout de suite donnée quand ils voient qu'on sait, comme eux, enfin, bosser, qu'on sait faire une fenaison, s'y accrocher, qu'on sait travailler. Alors, ils vous considèrent presque comme des leurs quand même. Je ne me suis jamais aperçue vraiment de la volonté ou bien du courage, comme beaucoup de gens nous disent, vous avez dû avoir beaucoup de courage. Même la fenaison, c'est sûr, par moments, on crevait vraiment de chaud, bien de fatigue, et puis il fallait absolument qu'on continue le lendemain matin, parce que le beau temps était là, et il faut rentrer le foin quand même. Mais, enfin, on a toujours été contents.
Je ne suis pas de l'avis de Claudie, hein, du tout, dans tout ce qu'elle dit, la joie tout le temps, moi non. Hein. D'abord, je faisais un travail dingue, hein. C'est vrai, hein, je tenais si ferme que tenaient des familles de paysans autrefois. Très vite, j'en ai eu marre, quoi. Donc très vite, moi, peut-être au bout de 2-3 ans, ben, je savais qu'il fallait trouver autre chose, que je voulais rester en montagne, mais que je voulais garder des moutons, mais je voulais m'orienter vers une autre voie. C'est comme ça qu'on est venu plutôt à la laine. Ça m'avait toujours intéressé déjà à Rambouillet, les différentes laines, tout ça, c'est une chose qui m'avait passionné.
Nous, on hésitait, on disait, est-ce qu'on va se lancer là-dedans dans le tissage? Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'on va y arriver?
Là aussi, la famille nous a traités de dingue, vraiment, au départ, quoi, parce que l'achat d'un métier à tisser, bon, ça fait 1 million, quoi. Un métier à tisser comme celui du haut, qui fait 1,80 m de large, alors là, c'était l'affolement.
Comme nous étions seuls, comme nous n'avions rien, comme nous ne pouvions pas acheter de laine en pelote, comme le faisaient la plupart des tisserands à cette époque-là, que nous avions juste les toisons du troupeau et les plantes autour, qu'on savait tinctoriales, on a vraiment créé quelque chose avec ce qu'on avait à notre disposition. Et parce qu'on était ignorants, et parce qu'on n'avait pas d'argent, on a découvert quelque chose de nouveau.
Donc les teintures, c'est tout simple, j'ai eu des recettes. Je savais que certaines plantes étaient tinctoriales. J'ai pris une petite casserole de cuivre, puis j'ai essayé. J'ai mis un bout de laine, j'ai mis des plantes, puis pff, peu à peu, comme ça.
On a commencé par teindre avec les noix en juillet, c'est-à-dire les noix toutes petites encore. Alors il faut les cueillir, et on les écrase avec un mortier. Et puis on les met dans l'alambic, on met de l'eau, et on met la laine en même temps. Et on fait chauffer, on fait bouillir tout ça très, très lentement. Et ça donne une couleur qu'on appelle le fauve. Puis ensuite, on a également teint la première année avec les rameaux de genêt. Et ça nous donnait des jaunes et puis des verts un peu kaki. On n'était pas tellement emballés. Et puis, petit à petit, on a découvert les autres plantes tinctoriales. Francis a tout essayé. Et on était très, très excités parce que de jour en jour, il y avait des nouvelles couleurs, il y avait des nouvelles plantes qui donnaient parfois 2, 3, 4, 5 nuances différentes, suivant le temps, s'il faisait beau ou s'il avait plu, au moment où on avait cueilli la plante. Alors ça donnait des couleurs et des nuances différentes. La saison à laquelle on les avait cueillies, et la quantité, le nombre de laines. Enfin, c'était vraiment une découverte vraiment très, très belle. Il faudrait qu'on soit plus nombreux pour que la vie tout entière, c'est-à-dire de l'alimentation, vêtements, soit satisfaisante et belle. Il faut des montagnards et il faut des troupeaux. Que s'il n'y avait pas des gens comme nous, là, pour reprendre en main une montagne qui est abandonnée par les paysans parce qu'elle est dure à exploiter, la montagne retournerait très vite aux ronces, aux orties, et puis aussi aux camps militaires. Alors qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'accrochent sur la montagne, et puis il faut qu'il y ait des gens qui fassent un travail comme des fromages de chèvre, qui sont des vrais fromages de chèvre, artisanaux et lentement faits. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent des tapis, des coussins, qui aient vraiment une odeur et vraiment une histoire. On passe, je crois, très souvent dans certains métiers ou alors dans les villes. En tout cas, moi, il me semble que je serais passée à côté de moi, à côté de tout un aspect de moi. Et que c'est depuis que je suis toujours à Bambois et depuis que je fais ce travail, tisser, faire des tapisseries, faire des tapis, que je me sens vraiment bien. Et parce que je suis en accord avec moi-même.
If you say this is pop, to be singing to a tune with a rhythm like this, would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go? Some people swear, they say they know where. For me, it's a mystery. But whichever way you see it, you have to admit it and live it and live it. We all kick the bucket in the end. All the girls kick the bucket in the end. And the boys kick the bucket in the end. Yep, we all kick the bucket in the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people, all feeling afraid of the same thing. But there's nothing to lose, 'cause we're all on a bike and we're cycling through, getting up on our injuries. But you gotta get back on it and live it to love it and live and love life, 'cause we all keep the bucket in the end. All the girls keep the bucket in the end. And the boys keep the bucket in the end, my friend. Yep, we all keep the bucket in the end. This is not a sad song, I don't bring it up to get you down. It's a celebration.
C'était Le Point du 7e jour, reportage en archives de Sonia Cremonde, réalisé par Benjamin U. Emmanuel Geoffroy, avec un coup de main de David Jacques Beauviais. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 6 septembre 2016. Merci à Jeanne Delecroix, à Sandrine Chapon et à Zoé-Marie Roulier.
All the girls get the bucket in the end.